Me que se pastel. Oh, me qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 25 mars 2025. On part tout de suite en Turquie, à Istanbul, pour prendre un petit peu des nouvelles de ce qui se passe du côté des chamboulements politiques suite à l'arrestation du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu. Il est toujours incarcéré, donc sur décision d'un tribunal, malgré son incarcération, était désigné comme le candidat à la présidentielle pour son camp, la présidentielle qui se tiendra en 2028, puisque les primaires du parti JEP se tenaient ce dimanche, la primaire ouverte, auquel une participation énorme de la population a rendu encore plus de légitimité. C'est le principal opposant donc à l'actuel chef d'État, Recep Tayyip Erdogan, qui a été investi par plus de 15 millions d'électeurs. Ça fait un peu moins d'un électeur turc sur quatre, lors d'une primaire ouverte à tous les électeurs. Donc la mobilisation était telle que les opérations de vote ont dû être prolongées de plus de 3 heures et les bulletins ont dû être réimprimés. Donc une manière pour la population de soutenir le candidat ou en tout cas de critiquer ce qui vient d'être fait par son opposant, le président. Je rappelle que la semaine dernière, le maire d'Istanbul avait été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption et de terrorisme. Finalement, c'est seulement la première charge en corruption qui a été retenue par le juge qui a ordonné sa détention. Et depuis cette arrestation, des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues à travers le pays. De telles manifestations n'avaient pas été vues dans le pays depuis le mouvement du parc Gezi et l'occupation de la place Taksim en 2013. Ces mouvements de contestation ont donné lieu à des mesures de répression de la part des autorités turques qui ont interdit tout rassemblement dans ce qui est la plus grande ville du pays jusqu'à demain soir. 1133 suspects ont été arrêtés dans le cadre d'activités illégales menées entre le 19 et le 23 mars 2025, indiquait sur X le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya. Au moins 10 journalistes, dont un photographe de l'AFP, ont aussi été interpellés à l'aube hier matin à leur domicile à Istanbul ou à Izmir. C'est ce qu'a rapporté l'association turque de défense des droits humains MLSA. Le président Erdogan a juré ne pas céder à la terreur de la rue, mais cette stratégie de la force pourrait bien jouer en sa défaveur. Ainsi, le politologue Ahmet İnsel analyse ce type d'acharnement du gouvernement, selon lui, rend la personne encore plus populaire. Je crois qu'aujourd'hui, Erdogan a vraiment créé son rival. Même depuis la prison, İmamoğlu peut continuer à peser massivement sur les prochaines évolutions politiques. Et c'est le chef du Parti républicain du peuple, JEP, donc le soutien du parti du maire d'Istanbul, qui avait d'ailleurs lancé « Ekrem İmamoğlu est en route vers la prison, mais il est aussi en route vers la présidence ». Pour le moment, le parti JEP conserve donc la mairie d'Istanbul, puisque le gouvernement ne l'a pas encore placé sous tutelle. Le conseil municipal, qui est dominé par le JEP, doit se réunir demain pour désigner un nouveau maire. Et l'organisation, donc le parti, doit faire face également à l'incertitude qui pèse sur le sort de Ekrem İmamoğlu, qui pourrait rester détenu plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années. Le défi donc pour l'opposition turque sera de se maintenir vivante sous une forme ou une autre, et de canaliser la colère pour la transformer le moment venu en victoire dans les urnes, avec ou sans donc leur favori. Nul doute que le pouvoir en place réserve encore beaucoup d'autres épreuves pour le maire d'Istanbul d'ici le jour du vote qui aura lieu dans 3 ans au plus tard. Ce que vous entendez là, c'est un rassemblement devant le domicile de Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Israël et son Premier ministre seraient-ils en train de s'enfoncer dans une crise politique qu'ils n'ont pas vu venir? La Cour suprême israélienne a suspendu ce vendredi la décision inédite du gouvernement de limoger Ronen Bar, donc le chef du Shin Bet, qui est le service de sécurité intérieure. La Cour suprême va donc examiner d'ici au 8 avril 5 recours qui ont été déposés contre cette décision du gouvernement Netanyahou de limoger le chef de la sécurité intérieure. 4 de ces recours ont été déposés par des partis de l'opposition et le 5e par une ONG qui s'appelle le Mouvement pour un gouvernement de qualité. Cette ONG dénonce dans ce limogeage une décision illégale qui pose un vrai risque pour la sécurité nationale. C'est il y a maintenant 10 jours, le dimanche 16 mars, que Benjamin Netanyahou annonçait dans la stupeur générale une décision inédite pour Israël, à savoir donc la révocation du puissant patron du Shin Bet. Cette décision sera ensuite validée dans la nuit du 20 au 21 mars par le gouvernement. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, avait alors évoqué une perte de confiance professionnelle et personnelle persistante dans son chef. Le principal intéressé, donc Ronen Bar, lui avait rétorqué immédiatement que cette décision, selon lui, était motivée par l'intérêt personnel de Netanyahou, notamment les enquêtes en cours qui le concernaient. Il faisait ici référence à ce qu'on appelle le Qatar Gate. En effet, le Shin Bet a rendu public ce 4 mars une enquête interne qui met en lumière des failles sécuritaires qui ont conduit au fiasco du 7 octobre 2023, les massacres commis par le Hamas. Ce rapport a mis en cause l'exécutif en jugeant que la politique d'apaisement qui était menée ces dernières années face au Hamas avait permis notamment au mouvement islamiste de bâtir un impressionnant arsenal militaire. Et dans une lettre qui a été rendue publique ce jeudi 20 mars dans la soirée, Ronen Bar faisait référence à ce que les médias israéliens ont baptisé le Qatar Gate, à savoir une affaire qui implique 3 proches de Benjamin Netanyahou qui auraient reçu de l'argent du Qatar. Le Qatar est un pays notoirement connu pour soutenir le Hamas. Une enquête a d'ailleurs été lancée suite à cette lettre par la procureure générale. C'est donc dans ce climat que le limogeage annoncé du chef du Shin Bet a provoqué une vague de contestation dans tout le pays. Des milliers de personnes ont encore manifesté jeudi dernier devant le bureau du Premier ministre et devant la Knesset, le Parlement israélien. Ferrar, le président d'Israël, Isaac Herzog, s'est exprimé dans une vidéo, lui qui est plutôt discret d'habitude. Il a déploré certaines initiatives controversées qui créent de profonds clivages au sein de la nation. Benjamin Netanyahou est donc de plus en plus critiqué pour sa gestion de la guerre à Gaza, sa décision de rompre la trêve le mardi 18 mars et de relancer les opérations militaires israéliennes dans le territoire palestinien, qui ont fait au moins 470 morts, a poussé des dizaines de milliers d'Israéliens dans la rue. Ils accusent le Premier ministre de bombarder Gaza et de sacrifier les otages israéliens encore aux mains des groupes armés palestiniens pour des considérations politico-politiciennes. Benjamin Netanyahou est soupçonné par ses détracteurs d'avoir repris les hostilités donc afin de regagner le soutien de l'extrême droite, qui est hostile au cessez-le-feu, et aussi de pouvoir faire passer son budget devant la Knesset avant la fin du mois. D'ailleurs, un signe qui vient corroborer tout cela, c'est que Itamar Ben-Gvir, le ministre d'extrême droite qui avait démissionné de son poste pour protester contre la trêve du 19 janvier, a depuis réintégré le gouvernement dès mardi dernier. Le Premier ministre est aussi empêtré dans des affaires judiciaires. À côté de cela, il comparaît depuis le mois de décembre devant le tribunal de Tel Aviv pour corruption, fraude et abus de confiance. Ce procès a été interrompu plusieurs fois en raison de la guerre. Dans ce contexte tendu donc et face aux décisions controversées du Premier ministre et de son gouvernement, le plus radical de toute l'histoire d'Israël, le chef du Shin Bet est vu comme un des derniers garde-fous de l'état de droit. Et selon un sondage qui a été fait par la chaîne 12, 51% des personnes interrogées se disent opposées au limogeage de Ronen Bar. On reste sur la situation autour d'Israël et de la guerre avec la Palestine. Hamdan Balal, le co-réalisateur palestinien du film qui vient d'avoir un Oscar qui s'appelle No Other Land, a été attaqué par des colons israéliens et arrêté. Ce n'est pas la première attaque qui vise Hamdan Balal, mais cette fois-ci, ce réalisateur palestinien se retrouve entre les mains de l'armée israélienne. C'était hier, lundi, au matin, que plusieurs témoins ont vu le militant arrêté par Tsahal après que des colons ont attaqué sa maison et qu'il ait été, selon son collègue, lynché. Ce militant donc, est co-réalisateur du documentaire No Other Land, qui a été récompensé cette année aux Oscars. Il a été, sa maison est dans le village palestinien de Soussiya, on est au sud de la Cisjordanie, et sa maison a été encerclée et attaquée par un groupe composé d'une quinzaine de colons vers 18h. Suite à l'attaque, alors que Balal était évacué en ambulance pour être soigné, des soldats israéliens ont arrêté le véhicule, donc l'ambulance, et les soldats l'ont récupéré, des soldats qui appartenaient à une unité d'intervention rapide composée de colons des colonies voisines qui l'ont ensuite remis à d'autres soldats de l'armée israélienne. Son co-réalisateur Yuval Abraham, un co-réalisateur du film, a écrit hier donc sur le réseau social X que Balal avait été lynché et qu'il présentait des blessures à la tête et au ventre, en ajoutant qu'il ignorait toujours où il se trouvait aujourd'hui et s'il recevait bien des soins médicaux. Les raisons restent obscures pour cette attaque, l'armée israélienne n'a pas encore commenté l'incident. Ce n'est pas la première fois que ses réalisateurs et les membres de l'équipe du film No Other Land sont attaqués par des colons. Ce film a été tourné entre 2019 et 2023 en Cisjordanie. Et c'est un documentaire donc co-signé par un quatuor israélo-palestinien qui raconte la résistance courageuse des habitants de Masafer Yatta, étouffés par la colonisation de l'État hébreu. Ce film a suscité un tollé en Israël suite au discours des lauréats, discours qu'ils ont tenu justement au Festival international du film de Berlin. Ils appelaient à un cessez-le-feu à Gaza et ont supplié le gouvernement allemand de cesser de fournir des armes à Israël. Leur passage récent donc sur les écrans du monde suite à l'oscarisation du documentaire a remis de l'huile sur le feu. L'armée israélienne a par ailleurs revendiqué aujourd'hui l'attaque qui a tué la veille un journaliste de la chaîne Al Jazeera qui s'appelait Hossam Shabat. Il était journaliste dans le nord de la bande de Gaza. Dans un communiqué commun, l'armée et le Shin Bet affirment qu'il était un tireur d'élite terroriste du Hamas. Le syndicat des journalistes palestiniens a condamné le crime odieux perpétré par l'occupation israélienne contre ces journalistes par un ciblage direct. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 206 journalistes et travailleurs des médias ont été tués dans la bande de Gaza, selon ce syndicat. Et suite toujours au bombardement qui continue, au moins 14 personnes ont été tuées ce mardi à l'aube par des bombardements israéliens, c'est ce que rapporte la défense civile. L'armée israélienne a ordonné aujourd'hui aux habitants de toutes les villes frontalières du nord de la bande de Gaza d'évacuer en déclarant que des roquettes palestiniennes avaient été tirées sur Israël depuis la zone. Pour votre sécurité, vous devez vous déplacer immédiatement vers le sud, vers des abris connus. C'est ce qu'a déclaré l'armée dans ses ordres aux habitants de Jabalia, qui est le plus grand des camps de réfugiés historiques de la bande de Gaza. Or, selon les responsables palestiniens et des responsables des Nations Unies, il n'existe aucune zone sûre dans la bande de Gaza. D'après la défense civile, ce sont donc environ 50 000 personnes civiles qui sont prises au piège à Rafah, à la frontière entre Gaza et l'Égypte, où l'armée israélienne poursuit son opération lancée dimanche dans le quartier Tel al-Sultan.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
On revient en France, on va parler de la Commission nationale du débat public, la CNDP. C'est une première dans l'histoire de cette institution, puisque c'est une grève qui touche l'organisme. 10 salariés de la CNDP et 300 garants sont appelés aujourd'hui à faire grève contre un projet de réforme qui est porté par le gouvernement, qui, projet de réforme s'il aboutit, va retirer les projets industriels du champ d'action justement de la Commission nationale du débat public. C'est un décret qui doit mettre en œuvre cette réforme. Il a été retoqué par le Conseil d'État, ce qu'a révélé le média Contexte vendredi dernier. Mais l'exécutif n'a pas l'intention de s'en tenir là et devrait retenter le coup par voie d'amendement. Tout cela donc sur le projet de loi dit de simplification de la vie économique. C'est un projet de loi dont l'examen a commencé en commission spéciale hier lundi. S'il était adopté, donc, ce décret, les projets de mines, le projet d'usine ou d'autres projets d'exploitation pétrolière pourraient être lancés sans que la population soit consultée ni même informée à leur sujet. Par cette grève, nous voulons alerter l'opinion sur ce projet de réforme vraiment problématique et marquer le coup. Non, il n'y aura pas de régression environnementale aussi forte, sans protestation et combat. C'est ce qu'expliquait Florent Guignard, un des salariés de la CNDP, au micro de Reporter. Cette commission, elle date de 1995, elle a été créée par la loi Barnier, tiens, pour organiser des débats publics sur les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national qui présenteraient un fort enjeu socio-économique ou environnemental. C'est devenu une autorité administrative indépendante en 2002. Des projets, des grands textes programmatiques et des projets d'envergure sont tous passés par ces bureaux. Par exemple, le projet EPR2 à Gravelines, l'éolien en mer, la programmation pluriannuelle de l'énergie, etc. Actuellement, donc, les industriels sont obligés de saisir cette commission pour tout projet d'un montant supérieur à 600 millions d'euros, et ils sont libres de le faire s'ils le souhaitent, quand on est sur la fourchette entre 300 et 600 millions d'euros. La CNDP décide alors d'organiser, dans ces cas-là, soit une concertation préalable, soit un débat public, des procédures qui permettent de garantir que les citoyennes et citoyens concernés soient informés du projet et que celles et ceux qui le souhaitent puissent donner également leur avis. Deux droits sont inscrits depuis 2005 dans l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui est un texte à valeur constitutionnelle. La réforme donc, qui est essayée d'être mise en place en ce moment serait un rude coup pour la participation citoyenne. Donc, si ça devait arriver, à la place d'un débat public, le gouvernement proposerait une concertation préalable, sauf qu'elle est facultative et que les porteurs de projets, qui savent qu'ils ne sont pas d'intérêt général et qu'ils ont de gros impacts écologiques, n'iront pas vers un tel débat. C'est une belle hypocrisie, explique Daniel Simonet, qui est député du groupe écologiste et social de Paris et membre de cette CNDP. La concertation préalable, en plus, selon cette réforme, deviendrait plus courte. On passerait de 15 jours à 3 mois, contre 4 à 6 mois pour un débat public. Cette restriction, en plus, affaiblirait l'autorité administrative indépendante. Il faut savoir que les projets industriels représentent la moitié de l'activité de cette commission. C'est son activité la plus compréhensible et la plus emblématique. Et en plus, elle ne coûte rien aux contribuables, puisque les débats publics sont justement financés par les porteurs de projets eux-mêmes. C'est environ 1 million d'euros pour un projet qui coûterait 1,5 ou 2 milliards d'euros. Et si cette activité s'arrêtait, eh bien la CNDP, la Commission nationale du débat public, ne fonctionnerait plus qu'avec de l'argent public, ce qui en ferait donc un argument supplémentaire pour ses opposants qui diront qu'elle coûte trop cher. Car ça, c'est pas nouveau, hein. Ça fait des années que la CNDP est attaquée. Dès 2014, la loi de transition énergétique prévoyait la fin des débats publics pour les projets de lignes à haute tension, à la grande satisfaction de RTE, le fournisseur d'électricité. En 2021, un décret de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique avait relevé le seuil de montant de 300 à 600 millions d'euros, le seuil d'obligation de saisir cette commission pour les projets industriels, sans parler de tentatives répétées de tenter carrément de la supprimer, notamment en 2023 avec des députés Les Républicains ou en 2024 avec des députés Rassemblement National. Alors, certes, cette CNDP, je vous en parle souvent, ce n'est pas un outil parfait, hein, puisque ses avis, notamment, ne sont pas du tout contraignants. Mais, malgré tout, elle permet d'informer le public, et son histoire est marquée par des débats houleux et des critiques très vives, en particulier en matière tout ce qui concerne les projets nucléaires. Mais ce n'est pas parce qu'elle est insuffisante qu'il faut l'affaiblir, insiste Daniel Simonet. Cette réforme gravissime va à rebours de l'histoire. On ne veut pas que le peuple se mêle des enjeux écologiques. On ne veut pas permettre une démocratie qui s'exerce sur des projets industriels. C'est vraiment une régression à la Trump.
Oh, les ras-bols, tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Ben justement, un des projets environnementaux qui fait couler beaucoup d'encre cette année, la 69, un nouvel épisode va peut-être se jouer. Plusieurs associations conteste en effet devant le Conseil d'État la validité du contrat de concession donc de la 69 qui a été conclu entre l'État et l'entreprise Atosca. Si ce contrat était annulé, cela pourrait davantage fragiliser ce projet d'autoroute. On est quelques semaines seulement après la décision du tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'autorisation environnementale pour la 69, ce qui pour l'instant a suspendu le chantier. Eh bien, une nouvelle décision, en tout cas, suscite l'attention des opposants. C'est le Conseil d'État qui pourrait bien résilier. Donc le contrat de concession qui a été conclu entre l'État et Atosca, car une audience se tient dans les prochaines semaines à Paris, devant ce Haut Conseil d'État. Ce sont trois associations, Attaque du Tarn, Agir pour l'environnement et Les Vallons, qui depuis juin 2024 ont saisi donc le Conseil d'État pour essayer de faire annuler ce contrat, qui comporterait selon elles de nombreuses irrégularités, notamment la durée de cette concession, qui est anormalement haute, à savoir elle dure 55 ans dans les textes aujourd'hui. Pour les autoroutes, normalement, la durée de cette concession est calculée en fonction du temps qui est nécessaire au contractant pour qu'il obtienne un retour sur investissement. Dans le cas de la 69, l'État a justement sollicité l'avis de l'autorité de régulation des transports. C'était en 2022, Et justement, cette autorité a estimé que la durée du contrat, vu les investissements, pourrait être de 40 ans. Cette même autorité précise que les investisseurs ont demandé une couverture des risques qui équivalait à 15 ans supplémentaires. Or, dans les textes, ces fameux risques, les risques financiers donc, doivent reposer sur le concessionnaire. L'État ne doit pas accepter un prolongement du contrat dans le seul but de rassurer des investisseurs. L'avocat toulousain qui porte cette requête des associations devant le Conseil d'État est catégorique lui aussi. Il n'y a pas de transfert de risque dans ce contrat et nous demandons à ce titre la résiliation. Non seulement le chantier est suspendu, mais si ce contrat est annulé, tout le processus de négociation entre l'État et le concessionnaire devrait reprendre depuis le début, ce qui prendrait du temps. Cela rendrait le dossier de la 69 quasiment impossible. Les associations émettent en plus de sérieux doutes quant à la facture, le coût réel qui a été estimé par le concessionnaire pour la construction, l'exploitation et l'entretien pendant la durée du contrat. Ce coût est de 1,1 milliard d'euros estimé, et c'est pour les opposants bien trop, c'est surestimé. Ils pensent qu'Atosca a surestimé cet investissement de base afin d'obtenir justement une durée d'amortissement plus longue, et donc un contrat de concession plus long, ce qui leur assurera des revenus. Les opposants et leurs avocats n'ont pas accès aux chiffres, malheureusement, puisque ces chiffres précis ou le détail des calculs sont occultés dans le dossier au titre du secret des affaires. Le ministère des Transports ou Atosca n'ont pas souhaité répondre aux questions des journalistes de Reporters. Si ce contrat de concession était annulé, l'article du Code de la commande publique prévoit que le concessionnaire pourrait prétendre à une indemnisation des dépenses déjà engagées, notamment si ces dépenses ont été utiles à l'État. Selon Atosca, ainsi, ce sont 300 millions d'euros environ qui ont déjà été dépensés pour le chantier de la 69. Et là aussi, ce chiffre est largement contesté par le collectif La Voix est libre, qui juge ce montant surestimé et qui a saisi la Cour des comptes le 12 mars dernier pour faire toute la lumière sur ces chiffres.
De toute façon, faut pas les écouter, les pécores, ils sont jamais contents.
Les taxes, c'est censé être utilisé pour régler les problèmes des paysans. Et quand on les entend parler, leur seul problème, c'est les taxes. Il y a une vraie dichotomie, là.
Ouais, c'est pas faux.
Ambiance Kaamelott, on va terminer avec cette nouvelle qui vient encore des États-Unis et de l'administration Trump, où décidément, on n'arrête pas d'en faire des plus belles. Les lieutenants de Trump auraient ajouté par erreur à leur groupe de discussion top secret sur le réseau social Signal un journaliste. Et dans ce groupe, le chef du Pentagone dévoilait des plans à venir pour l'attaque contre les Houthis au Yémen. Non seulement donc les plus proches lieutenants de Donald Trump ont utilisé l'application Signal pour discuter d'une opération militaire à venir au Yémen contre les Houthis, mais en plus ils ont inclus par erreur dedans le rédacteur en chef du magazine The Atlantic dans le groupe. Et c'est celui-ci qui a révélé la bévue une fois que les attaques ont été terminées. Le 11 mars, donc 4 jours avant les frappes américaines, ce journaliste, Jeffrey Goldberg, reçoit une invitation Signal de la part de quelqu'un qui s'appelle Michael Vatt. Pense d'abord à une erreur où quelqu'un cherche à se faire passer pour lui, puisque Michael Vatt, c'est le nom du conseiller à la sécurité nationale. Deux jours plus tard, Goldberg est bien ajouté sur ce groupe, sur la messagerie chiffrée du groupe Signal. Le groupe s'appelle Houthi PC Small Group. Ce groupe contient 18 personnes, avec les plus hauts cadres de l'administration Trump, notamment le chef du Pentagone, Pete Hegseth, le vice-président, J.D. Vance, le patron de la CIA, John Ratcliffe, l'émissaire spécial de Donald Trump pour Gaza et l'Ukraine, Steve Witkoff, ou d'autres chefs de l'espionnage ou secrétaires généraux de différents membres du gouvernement. Eh bien, personne, en tout cas, ne semble remarquer la présence de ce journaliste. Chacun est nommé avec ses initiales. Dans l'article, Jeffrey Goldberg a choisi de ne pas citer les messages qui contiennent des informations classifiées. Il explique que si ces informations avaient été lues par des adversaires des États-Unis, elles auraient pu mettre en danger le personnel américain du centre de commandement au Moyen-Orient. Un porte-parole du Conseil à la sécurité nationale a confirmé à The Atlantic l'authenticité du groupe Signal. Il dit « Il semble s'agir d'une chaîne authentique de messages et nous examinons comment un numéro a été ajouté par inadvertance. » Alors, le fait que Signal soit largement utilisé par les politiques américains, déjà c'est un problème. Ils sont censés normalement avoir recours au système sécurisé du gouvernement américain pour partager toute info qui toucherait à la défense nationale. D'ailleurs, les ministres ont souvent même une pièce spéciale dans leur domicile, justement une pièce blindée qui s'appelle le SCIF. Voilà de quoi décrédibiliser une fois de plus l'administration Trump pour tous ses détracteurs. Et quand celui-ci a été confronté justement face à cela par un journaliste, il a dit qu'il n'en avait aucune idée et que le journal, en tout cas, dont il était question, était vraiment un mauvais journal. Quant aux vraies bombes qui sont tombées sur le Yémen, elles ont été bien lancées. L'attaque a détruit un bâtiment dans un quartier de Sanaa, la capitale, alors que la campagne américaine contre les Houthis s'intensifie depuis plus d'une semaine. Washington affirme que les récentes frappes ont permis d'éliminer des dirigeants rebelles.
Ah, la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
On a repoussé les limites, là.
Chers amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée si vous nous écoutez en rediff. Et je vous donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde, si tout va bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.